Abondance. 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 Une série radiophonique du collège La Collinière. Bonsoir et bienvenue sur le créneau du Sonolab. Cette semaine, nous vous proposons d'écouter une série créée par des troisièmes du collège La Collinière à Nantes. Leur thématique, l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance ? C'est le fait d'avoir ou de chercher à avoir des ressources supérieures à nos besoins. Dans cette série, l'abondance est analysée selon différents points de vue et thématiques, à savoir l'histoire, l'écologie, la santé physique, la santé mentale, les médias et l'information. Ce soir, vous allez découvrir les deux premiers épisodes sur l'histoire et sur l'écologie. Demain, sur la santé physique et la santé mentale. Puis, pour terminer cette diffusion, l'épisode sur les médias et l'information. Bonne découverte et bonne écoute.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Jet FM. Nous sommes une classe de 3e ayant travaillé sur la notion d'abondance. Nous sommes Marceau, Albin, Lucie, toi et Jawed. Notre sous-thème à nous est la place de l'abondance dans l'histoire humaine. Et nous allons étudier l'abondance en anthropologue. En deux mots, l'anthropologie est l'étude de l'homme en société. Nous avons sélectionné des exemples de sociétés à travers l'histoire entière. Et nous vous proposons aussi une interview de Yannick Roudot, un décloisonneur intellectuel.
L'abondance a toujours été présente et importante pour nous, les humains. Pendant la préhistoire, à l'âge de pierre, des civilisations se sont créées avec pour objectif d'atteindre une forme d'abondance. Comme l'usage d'armes faites main, l'élevage d'animaux, l'une des premières sociétés est la civilisation sumérienne. Aussi, dans la société humaine, il y a une déesse qui représentait l'abondance, Abundita. Cela montre que cette notion était très importante pour les Romains. Et depuis toujours, les personnes aisées montrent leur richesse avec des tableaux, plus souvent leurs portraits. Comme exemple concret et populaire, il y a le portrait du roi Soleil, Louis XIV, en costume de sacre par Hyacinthe Rigaud. Nous pouvons le voir enveloppé d'une cape bleue avec des fleurs de lys. Il a une épée en or, il a une perruque et son sceptre. Tous ces éléments montrent à quel point il est riche et important.
Nous accueillons Yannick Roudot, un ancien journaliste spécialisé dans le marché des finances, pendant 15 ans. En 2007, il change de mode de vie pour devenir un décloisonneur intellectuel à la recherche d'un modèle économique durable. Il est également cofondateur de la maison d'édition La Mer Salée.
Pourriez-vous expliquer ce changement de métier en quelques mots ? Et aurait-il un lien avec la notion d'abondance ?
Un lien ? Pas vraiment, je crois pas. En fait, moi, c'est des concours de circonstances. J'étais journaliste économique et financier. J'ai quitté Paris. Je suis venu à Nantes il y a 25 ans. Et puis, j'ai changé de métier progressivement. Je suis devenu éditeur, conférencier. C'est un peu des hasards de la vie, j'ai envie de dire, des rencontres.
À quel moment de l'histoire de l'humanité, l'abondance était-elle le mieux vue et à quel moment l'était-elle le moins ?
En fait, je pense que c'est difficile à dire parce que ça dépend du modèle économique. Alors, je ne vais pas trop être trop technique, mais on est dans un monde économique aujourd'hui qui consomme beaucoup de ressources. Donc, l'abondance est nécessaire à la consommation de la société de tout ce qui est jetable, en fait. Donc, tant que l'humanité était dans une société où on ne jetait pas, où on gâchait pas, où il n'y avait pas de plastique, où il n'y avait pas de déchets, emballages, etc., la question de l'abondance ne se posait pas parce qu'il y avait abondance, en fait. On avait tout ce qu'il fallait. Et là, entre la courbe démographique, on en parlera peut-être après, l'évolution de l'humanité et les ressources qui disparaissent, bon, on n'est plus en abondance. La question se pose.
Quels sont, selon vous, les moments clés où l'humanité a modifié son rapport à son environnement et pour quelles raisons l'a-t-elle fait ?
Ouais. Alors là-dessus, il y a un vrai débat. Alors je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez toutes et tous, c'est un peu compliqué, c'est le mot anthropocène. Ça vous parle ?
Oui.
L'anthropocène. Donc l'anthropocène, le moment où l'être humain a commencé à influer sur la biosphère, sur la planète, et à tel point qu'on est en train de changer le climat. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité, aucune espèce n'a pu changer le climat, c'était impossible auparavant, et maintenant on peut le faire, du fait de la pollution qu'on rejette, hein, les gaz à effet de serre. pollution des eaux, pollution des sols. Et ça, ça a commencé. Alors, il y a un grand débat international, mais on peut dire que les ennuis ont commencé vers 1850. Pourquoi ? Parce qu'en 1850, vous l'avez peut-être vu en histoire, c'est le début de la deuxième révolution industrielle. Et là, c'est le début de la mécanisation, de l'industrialisation quantitative. Et derrière, il y a un deuxième saut qui a été fait, qui est extrêmement important. C'est l'après-Seconde Guerre mondiale, 1950, avec ce que j'appelle, moi, l'occidentalisation du monde, l'américanisation du monde. Et tout le monde doit consommer les mêmes choses partout dans le monde. Et là, ça pose problème parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour que 8 milliards d'habitants jettent les mêmes produits plastiques, et les mêmes t-shirts, et les mêmes iPhones, et les mêmes voitures. Ça ne rentre pas dans l'équation. C'est physiquement impossible.
Mais est-ce qu'on pouvait savoir que ce changement climatique et ce changement du point de vue de l'abondance pouvait avoir lieu bien avant qu'il eût lieu ?
En fait, dès 1970, il y a des gens qui tiraient la sonnette d'alarme. Aux États-Unis, vous avez un monsieur qui s'appelle Denis Meadows, avec sa femme, qui ont écrit un rapport en disant « la croissance infinie, ça n'existe pas ». Vous savez, comme on dit toujours, il y a du bon sens, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Un arbre, il s'arrête de pousser. Dans la nature, il n'y a pas de croissance illimitée. Il avait tiré la sonnette d'alarme. Après, il y a des gens comme Arun Taziev, qui est un vulcanologue dans les années 70, qui disait que, attention, la planète allait vers quelque chose de dramatique. Commandant Cousteau, alors vous ne le connaissez pas, mais peut-être, si, quelques-uns. Moi, ça a bercé mon enfance, qui disait là aussi, attention, les océans sont maltraités, ça va mal aller. Donc, il y avait des signaux, sauf qu'on n'a pas écouté, on n'a pas entendu. Et maintenant, on commence à subir les premiers effets. Et on se rend compte qu'il faut agir, mais il y a une. Vous savez qu'il y a 30 ou 40 ans d'inertie, c'est-à-dire que pendant 30 ou 40 ans, il se passera des choses, quoi qu'il se passe, parce que ça a été, c'est ce qu'on n'a pas fait avant qui génère ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ce qu'on fait aujourd'hui sera des impacts dans 30 ans, dans 40 ans.
Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de retour en arrière.
Ah si, moi je reste optimiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours un retour en arrière. L'idée c'est que pendant les 30 années qui viennent, ça va se dégrader au niveau climatique, ça c'est sûr. Donc quand vous aurez mon âge, ce sera peut-être le début de la bascule vers autre chose, parce qu'on aura agi entre 2023 et 2050, on aura fait des choses qui fait que la deuxième partie du siècle sera beaucoup plus vivable, parce qu'on aura sûrement réussi à limiter les dégâts, voire à inverser la situation. Il n'y a pas de fatalité dans tout ça. On a les technologies, on a la capacité de changer de mode de vie, on peut changer nos modes de consommation, on peut évoluer.
Pensez-vous que la recherche d'abondance est inscrite dans les gènes d'Homo sapiens, qu'elle est inévitable ?
Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas que ce soit inévitable. Ça, c'est le discours de certains leaders économiques et politiques mondiaux qui disent, de toute façon, l'homme, il veut toujours plus, il ne se satisfait jamais de rien, il veut toujours accumuler plus d'argent, plus de biens, consommer plus. Et c'est totalement faux parce que moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans le monde quand j'étais plus jeune. Et je suis allé notamment en Amazonie, j'ai rencontré ce qu'on appelle des Indiens animistes, des gens qui vivent dans la nature, dans la forêt. Et pour eux, l'abondance, c'est prélever, c'est prendre juste ce qu'il faut pour que les espèces animales ne soient pas en péril, pour que les arbres, il y en ait toujours. Donc ils vont couper un arbre, ils n'en coupent pas 100. Ils vont tuer un animal pour le manger, mais ils tuent plutôt un vieux mâle ou une vieille femelle, mais pas un jeune qui est en train de se reproduire. Ils font très attention à ce qu'ils font. Et donc il n'y a pas cette culture de vouloir toujours plus. Leur mode de vie, c'est faire avec la nature en permanence et la préserver de façon à ce qu'ils puissent continuer à vivre bien dans une forme d'abondance, mais ils ne sont pas dans l'accumulation. Vous voyez la nuance ? L'abondance, ce n'est pas forcément s'accaparer toutes les ressources. Vivre dans un milieu d'abondance, il faut le préserver, parce qu'un jour, sinon, il n'y en aura plus. Donc, ce n'est pas inscrit dans les gènes de l'humain. C'est inscrit dans notre façon de penser et de consommer depuis peut-être 200 ans. Et surtout avec une accélération depuis 1950.
Et selon vous, comment peut-on faire pour prendre conscience du danger qui existe dans la quête permanente de l'abondance ?
Il y a deux choses. Il y a l'éducation. Donc, c'est important d'en parler dans les écoles, dans les familles, dans les lycées, dans les collèges, première chose. Deuxième chose, prendre conscience, on en prend conscience par les contraintes qui arrivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'eau commence à manquer en France, ce qui est du jamais vu. J'étais en Espagne il y a quelques semaines. En Espagne, il n'y a plus d'eau à Barcelone, par exemple. Une ville comme Barcelone, il n'y a plus d'eau. Bon, quand il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait ? On importe de l'eau en bateau-citerne. On essaie de désaliniser l'eau. Mais désaliniser l'eau de mer, ça coûte très cher en énergie. C'est très coûteux, donc ce n'est pas une solution. Et ce qui veut dire que, par la force des choses, et c'est pour ça que je reste optimiste, on va changer. Quand il y aura moins d'eau, on arrêtera de prendre une douche tous les matins. On fera comme dans certains pays, on fait très attention avec l'eau. Et on vit très bien en faisant attention à l'eau. Sauf qu'il faut changer les modes de consommation, il faut changer de culture. Et ça, c'est de l'apprentissage, de la prise de conscience, et puis de l'expérimentation. Si vous lavez qu'une bassine le matin, vous n'allez pas en mourir, ça se passera très bien. Moi, j'ai fait ça toute mon enfance, et on prenait une douche le dimanche. Et on était propre. C'était pas un problème. Sauf qu'aujourd'hui, des gens pensent qu'il faut prendre une douche tous les matins et tous les soirs, pour certains. Ça rentre pas, c'est pas possible.
Quelles sont pour vous les pistes à suivre afin de permettre à l'humanité de connaître un avenir meilleur ?
La première piste, c'est que chacun doit prendre sa part de responsabilité. C'est-à-dire que moi, je rencontre beaucoup de gens dans mon quotidien qui disent « Oui, mais un tel fait rien, les autres font rien, les Chinois polluent, donc ça marchera jamais. » Et avec ce raisonnement-là, on fera rien. Tout changement, c'est une personne qui se met en mouvement. Sans espérer que les autres le fassent. Il le fait parce qu'il doit le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une question de morale, d'éthique, de responsabilité. Donc je me mets en mouvement, qu'importe si d'autres ne le font pas, moi je le fais, parce que ça me fait plaisir et je dois le faire. Et en agissant comme ça, petit à petit, on se rend compte qu'il y a quelque chose de viral, c'est que beaucoup de gens se mettent à bouger, sans forcément se concerter, et puis un jour, on se rend compte que 50% de la population a changé, 60-70%. Il y aura toujours 20% des gens qui ne bougeront pas, c'est inévitable, ou 10%, il y aura toujours un pourcentage de conservateurs réfractaires. Mais globalement, dès lors qu'on se met en mouvement, on reprend de l'espoir, parce que c'est-à-dire qu'on initie quelque chose. Donc comment faire? Bah, changer ses comportements. Questionnez-vous, est-ce que j'ai besoin de changer de téléphone tous les deux ans? Est-ce que j'ai besoin d'aller chez dans des marques H&M, Shine, etc., chez des vêtements pas chers et les jeter à la poubelle au bout de 3 mois? Est-ce que j'ai besoin de prendre 4 fois la ration de viande le midi? Tout ça, c'est des questions basiques quotidiennes. Mais si on commence à changer tout ça, croyez-moi, hein, le dérèglement climatique, on y fera face. Il suffit de manger moins de viande, de consommer moins, de se déplacer mieux, et ça change tout. Il n'y a rien de terrible. Je vais vous donner un exemple. On est en train de déforester Bornéo, l'Asie, pour manger du Nutella. Arrêtez de manger du Nutella, vous n'allez pas en mourir. Hein. Il y a d'autres pâtes à tartiner qui sont beaucoup moins impactantes, faites localement, et qui ne déforestent pas l'Amazonie, ni Bornéo. Ben voilà, c'est pas compliqué. Et j'explique ça à des dirigeants, à des adultes, je leur dis, mais vous vous rendez compte, on est en train de bousiller l'Amazonie, qui est quand même le poumon de l'humanité, pour manger de la viande, parce que c'est du soja qu'on fait pousser en déforestant, on plante du soja derrière, et on déforeste l'Asie du Sud-Est pour faire du Nutella. Et tout ça, c'est qui va payer? C'est vous, c'est les plus jeunes, et c'est ceux qui viendront derrière. Tout ça pour du Nutella et de la viande, ça n'a pas de sens. Si on arrêtait ça, déjà, ça irait beaucoup mieux. Après, si on partageait sa voiture, qu'on était à 4 et pas tout seul dans sa voiture, ça irait mieux. Si on prenait plus le train moins l'avion, ça irait mieux. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'histoire. Enfin, moi, ça me paraît très facile, le changement. Ce n'est pas le retour à l'âge de pierre, vous voyez. Ce n'est pas le retour à pas d'eau chaude, pas de voiture, pas de téléphone. Ce n'est pas ça du tout. C'est avoir des téléphones qui durent 5 ans, 10 ans, avoir des voitures solides qu'on répare, prendre ses transports autrement, plus de transports en commun. Et juste ça, ça suffirait. Sauf qu'il faut que ça parte de quelque part. Et ça doit partir d'abord de l'Occident, Europe, États-Unis et maintenant une partie de la Chine, parce qu'on est les plus responsables, les plus impactants au niveau mondial. Il ne faut pas pointer du doigt les pays qui sont dans une plus grande pauvreté, parce qu'eux, ils n'ont pas d'impact.
Mais est-ce que vous pensez que, à cause de tout cela, des moments, l'État, un peu le monde, va devoir se dire stop, on arrête toutes ces choses, puisque là, on va vraiment droit dans le mur, et on ne pourra pas revenir en arrière si on n'arrête pas ces choses?
Alors moi, personnellement, j'attends pas trop de changement du monde politique mondial, hein, je parle au niveau mondial. Je pense que ça viendra plutôt des consommateurs et des citoyens. C'est-à-dire que c'est à nous de dire non, ça j'en veux plus, ça je l'achète plus. Et au début, vous allez vous dire oui, ça sert à rien, c'est pas parce que j'achète pas le dernier iPhone que ça va changer quelque chose. Ah oui, mais vous êtes pas tout seul, et puis il y a peut-être des millions de personnes qui vont le faire dans l'année qui vient. Et finalement, ça change tout. Et c'est comme ça que les choses bougeront, et le politique bougera quand les gens bougeront. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme politique agit en fonction de l'opinion publique. Donc si l'opinion publique ne change pas, le politique ne change pas.
Mais est-ce que les personnes comme vous et moi n'attendent pas un changement politique pour se mettre à être plus écologique?
Alors toi, je sais pas, mais vous et moi. Moi, je sais que j'attends pas grand-chose du mouvement politique. J'espère qu'un jour, il y aura des hommes et des femmes politiques capables de vraiment prendre des mesures efficaces. Et à court terme, j'agis, parce que ça me paraît logique, évident. Et comme j'ai des enfants, je ne peux pas rester sans agir. Moi, je le fais pas pour moi, hein. Je le fais pour mes filles, elles ont 20 ans, c'est pour elles que je le fais. Puis peut-être pour leurs enfants un jour, mais c'est pas pour moi que je le fais. Et en plus, je vis pas ça comme une contrainte. Je crois que c'est très important d'y prendre du plaisir dans l'histoire. Si on vit ça comme une contrainte, comme une punition, ça marche pas. Donc faut vraiment trouver le moyen que ça soit agréable. Et je reviens sur la pâte à tartiner, essayez de trouver un truc qui remplace le Nutella. Vous prendrez autant de plaisir le matin à manger votre tartine, et en plus, ça aura de l'impact. C'est juste ça.
Concentrons-nous sur l'abondance aujourd'hui. Aujourd'hui, les humains excellent dans l'art du numérique. Et cet art est présent partout. Chez nous, en classe, au travail, en extérieur. Mais il n'y a pas que cet art dont la présence est excessive. Il y a aussi la consommation. Cela s'explique avec la notion d'avoir toujours plus des humains. Comme exemple, la période après la Seconde Guerre mondiale, les 30 glorieuses, est un tournant. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans une société de surconsommation. Pour l'avenir, on peut imaginer quelques solutions, en s'inspirant par exemple de ce que nous a dit Yannick Roudot.
Il faut dès la naissance éduquer les enfants pour leur enlever cette quête d'abondance et de surconsommation.
On peut aussi soutenir la notion d'écologie en agissant comme par exemple l'économie de l'énergie, l'eau, nos déchets, nos déplacements.
Il faut faire attention à ce qu'on achète, il existe la seconde main pour les vêtements et le reconditionné pour les outils numériques.
Afin d'éviter la destruction de la planète, c'est un acte collectif qui doit être mis en place le plus rapidement possible, car le réchauffement climatique est déjà bien en place. Dans les prochains épisodes de notre podcast, nous allons explorer les différents domaines impactés par cette abondance présente dans notre monde, mieux identifier les problèmes et peut-être découvrir d'autres solutions.
En attendant le prochain épisode, nous vous invitons à aller consulter notamment l'article accompagné d'une vidéo intitulée « Mais qu'est-ce que l'abondance ?» sur le site de l'INA. Vous le trouverez aussi en lien sur la plateforme Castopod, sur la page consacrée à l'épisode que vous venez d'écouter.
Bonjour, nous sommes Flora,
Loan,
Milan,
Alassane
et Victor.
Nous traitons le lien entre l'abondance et l'écologie dans ce podcast. L'écologie, d'après la définition du dictionnaire Le Robert, est la recherche d'un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement. Donc comparé à l'abondance, c'est tout le contraire.
D'après Le Point, l'été dernier, en 2023, 14 millions d'hectares de forêts ont brûlé au Canada. Tous les records de canicule ont été pulvérisés. Les rendements agricoles ont continué de s'effondrer en Afrique et au sud de l'Europe. Le stress hydrique, c'est-à-dire une situation critique qui surgit lorsque les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande en eau, s'exacerbe sur tous les continents. Malgré les tentatives rassuristes de certains responsables, nous sommes entrés dans un contexte anxiogène et pas seulement pour les jeunes.
L'abondance de ressources a mené l'humanité à sombrer dans une crise climatique aux enjeux très importants. Que peut faire le monde d'un point de vue économique ? La responsabilité sociétale des entreprises est la clé pour trouver des solutions. Peuvent-elles nous sortir de là ? Rien n'est certain. Prenons par exemple le secteur du bâtiment. Son empreinte carbone est d'une tonne de CO2 par mètre carré.
Nous avons interviewé Vincent Briand, qui travaille dans ce domaine, pour le rendre plus éco-responsable.
Aujourd'hui, on voit beaucoup passer dans les médias que la planète est de plus en plus affaiblie à cause de la surconsommation, comme par exemple des entreprises très énergivores et un marché de l'immobilier qui est dans le toujours plus. Bonjour Vincent Briand, vous êtes CEO de Depki, qui aide à améliorer les crises écologiques en passant par l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Depki tout d'abord ?
Oui, donc merci de me recevoir, bonjour à tous. Depki est une entreprise de logiciels qui aide les entreprises qui, ou les collectivités locales qui possèdent ou utilisent des bâtiments en fait à améliorer l'impact écologique, à réduire l'empreinte sur l'environnement l'immobilier. Parce qu'en fait, vous savez par exemple qu'il y a un changement climatique et que ce changement climatique, il est dû au fait qu'on consomme de l'énergie et quand on chauffe un bâtiment, quand on éclaire un bâtiment, quand on a des ascenseurs, bien, tout ça, ça consomme de l'énergie et donc ça pollue. Et puis aussi, lorsqu'on construit un bâtiment ou lorsqu'on rénove un bâtiment, eh bien, il faut des matériaux qui viennent de France, mais souvent aussi de l'étranger. Et ces matériaux, il faut les fabriquer, les transporter, et puis il faut encore émettre du CO2 pour toutes ces étapes-là de la construction d'un bâtiment. Et en fait, nous, on fournit un logiciel à toutes ces entreprises, ces collectivités, par exemple pour la mairie de Paris, pour la ville de Nantes, pour l'État français, ou encore des entreprises comme des assurances, comme Generali, par exemple. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un logiciel pour qu'ils puissent savoir quel est leur bâtiment qui pollue le plus, quel est le bâtiment qui pollue le moins, et savoir comment ils peuvent réduire l'empreinte environnementale de leur bâtiment. Et aujourd'hui, nous sommes presque 400 personnes un peu partout en Europe, à Londres, à Paris, à Berlin, à Milan, à Madrid et aux États-Unis. Et nous accompagnons plus de 450 entreprises et collectivités locales.
Alors, à quel point l'immobilier impacte-t-il la planète ?
C'est une excellente question. Si je reprends l'exemple du changement climatique, l'immobilier, ça représente 39%, plus d'un tiers des émissions de CO2 dans le monde. Donc quand on regarde tout ce que je viens de vous dire, la construction, tous les matériaux qu'il faut pour construire, les bâtiments, mais aussi toute l'énergie qu'il faut pour les chauffer, pour les éclairer, pour les refroidir, etc., eh bien ça représente plus d'un tiers des contributions au changement climatique. Et donc c'est le premier secteur qui émet du CO2 dans le monde. Et donc, on a à cœur de tous lutter contre le changement climatique maintenant. Et donc, c'est important d'améliorer les bâtiments pour qu'ils réduisent leur impact sur le climat.
Comment réduit-on l'impact d'un bien ?
Tout d'abord, en se posant la question de savoir est-ce que ce bien, est-ce que ce bâtiment, cet immeuble, cette maison, est-ce que déjà elle est plutôt performante ou pas ? Ça, c'est une première question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est déjà un immeuble qui est très bien isolé, avec du triple vitrage, avec une isolation extérieure ? Est-ce que il y a des systèmes de détection pour éclairer ou éteindre les salles de réunion ou les salles de classe ? Dans votre cas, par exemple, il y a toutes ces questions qui se posent. Donc, la première chose à se demander, c'est est-ce que le bâtiment est déjà performant ? Et en fonction de son niveau de performance, ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour encore plus améliorer cette performance, pour réduire l'impact de manière à ce qu'il n'émette quasiment plus du tout de CO2 dans son fonctionnement et dans sa vie complète. Et la troisième chose, ensuite, c'est mettre en œuvre. Et donc, quelles sont les grandes actions de mise en œuvre ? Tout d'abord, il y a l'isolation du bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut isoler pour éviter de perdre la chaleur et éviter de perdre le froid et isoler de la chaleur l'été lorsqu'il fait trop chaud ? La deuxième levier, c'est d'avoir des équipements qui soient plus performants. Mettre des éclairages à LED plutôt que des éclairages à tube néon ou à ampoule classique. Mais aussi changer les chaudières par des pompes à chaleur, par exemple, qui consomment moins d'énergie et mettent moins de CO2. Et puis, la troisième question, c'est est-ce qu'on ne peut pas améliorer la régulation ? Est-ce que vraiment on a besoin de lancer le chauffage à 5h du matin alors qu'il n'y a personne dans votre école ? Ou est-ce qu'on peut plutôt le faire à 8h moins le quart, quitte à chauffer un peu plus pour que ce soit plus confortable ? Donc, c'est tout ce qu'on appelle la régulation. L'autre levier, c'est la maintenance. C'est bête, mais en fait, bien nettoyer, bien entretenir tous ces équipements, eh bien, ça concourt à faire mieux fonctionner et donc à consommer moins d'énergie. Et enfin, le dernier levier, c'est le plus important, c'est nos comportements individuels. C'est nous qui devons penser, lorsqu'on sort de salle, à éteindre la lumière. C'est nous qui devons privilégier les escaliers plutôt que les ascenseurs. C'est nous qui devons éteindre un ordinateur qui ne sert à rien pour la nuit et le mettre en veille. C'est tous ces comportements cumulés qui, à la fin, permettent d'améliorer la performance d'un bâtiment.
Peut-on tous se permettre ce genre de bien en termes de place ou de prix ?
Alors, ça dépend. Le comportement, oui, tout le monde peut se permettre. Tout le monde peut faire attention, tout le monde peut s'améliorer. La maintenance et la régulation, oui aussi, parce que c'est très rentable, ça coûte vraiment pas cher à mettre en place. Il faut juste y penser. Alors, faut faire appel au bon plombier, au bon électricien, au bon chauffagiste, mais ça coûte vraiment pas cher. Donc oui, tout le monde peut le faire et c'est très rentable. Toutes les actions dont je viens de parler, dès que vous les mettez en place, vous faites des économies à la maison, à l'école ou dans les entreprises. En revanche, pour tout ce qui concerne le changement des équipements et l'isolation, là, non, tout le monde ne peut pas se permettre. Parce que, premièrement, ce sont des grandes sommes d'argent, déjà au départ, il faut investir, c'est ce qu'on appelle un investissement. Et ensuite, tout le monde n'a pas les moyens de rentabiliser ça en 5, 10, parfois 15 ans. Parce que ça va coûter cher au début, mais après, l'économie va mettre du temps à rentabiliser l'investissement initial. Et donc, pour ça, il y a de plus en plus de subventions et d'aides des pouvoirs publics pour aider en particulier ceux qui ne peuvent pas se permettre à mieux isoler leur bâtiment et à remplacer leur chaudière, par exemple. Et très certainement, le gouvernement et les collectivités locales pourraient faire encore plus pour aider les particuliers et les entreprises à faire ce que je viens de vous dire.
Combien en faut-il pour avoir un réel impact sur la planète ?
Il n'y a pas le choix, ce sont les accords de Paris. Si on veut limiter les émissions de CO2 pour limiter la température sur Terre à moins de 2 degrés, il faut que d'ici 2050, l'immobilier, les bâtiments, les maisons n'émettent quasiment plus de CO2. Donc, il faut vraiment réduire énormément. Et le peu qui sera émis, on le compensera en plantant des arbres ou en faisant des actions qui font des économies de CO2 ailleurs. Et donc, d'ici 2050, il faut que tous les bâtiments, que ce soit votre maison, l'appartement de vos amis, vos écoles, les institutions publiques, les entreprises, tous ces bâtiments doivent quasiment émettre zéro CO2 en 2050. Donc, c'est un changement, c'est une révolution. On peut le faire. On a techniquement les technologies aujourd'hui pour faire en tout cas une grande partie. En revanche, il faut s'y mettre et il faut s'y mettre très vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail d'ici 2050.
D'accord. Merci d'avoir répondu à vos questions. Au revoir.
Et bien, merci à vous. Au revoir.
Après l'intervention très constructive de M. Briand, nous pouvons conclure qu'actuellement, toute activité humaine a un impact sur l'environnement. Dans 30 ans, il y aura 70% de déchets en plus. Que faire pour y remédier? Nous pouvons en effet davantage recycler.
Par ailleurs, nous pouvons aussi économiser le carburant et les énergies fossiles. Il faut encourager l'agriculture locale et les énergies renouvelables. En attendant le prochain épisode, nous vous invitons à consulter notamment l'article « Le Poubellocène » ou « La folle histoire de l'ère des déchets ». Vous le trouverez en lien sur le site Castopod consacré à l'épisode que vous venez d'écouter.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
C'était des épisodes de la série radio Abondance par des troisièmes du collège La Collinière à Nantes. Merci à Madame Baril, leur enseignante et aux élèves pour ce travail de recherche et de mise en voix. Merci également aux invités. Retrouvez tous les épisodes et les références partagées lors des épisodes via la page dédiée sur notre plateforme Castopod. À bientôt !